Vous écoutez « On lit pour vous ».
Des progrès pour attirer des étudiants noirs dans les programmes de médecine. Un texte de Catherine Desautel de la Presse canadienne, paru le 20 mai 2025 dans Le Devoir. La proportion de médecins noirs est faible en comparaison avec la représentativité de cette communauté dans la population. Même s'il existe encore des défis pour recruter des étudiants noirs en médecine, on commence à voir des changements positifs. Par exemple, l'Université de Montréal a mis en branle, il y a quelques années, un programme pour mettre de l'avant la diversité dans le milieu médical. En 2022, l'Université lançait son plan d'action pour favoriser l'accès des communautés noires aux professions de la santé. Cela comprenait des actions spécifiques déclinées en plusieurs axes, notamment développer des contenus de cours intégrant des réalités vécues par les personnes noires, intégrer des professionnels des communautés noires dans les comités d'admission et les entrevues d'entrée au programme, et élaborer un programme d'accès visant à améliorer la représentativité des étudiants noirs. On est parti du constat qu'effectivement, il y a une représentativité faible par rapport à ce qu'on a dans la population. Au Canada, il y a à peu près 4,7% de la population qui est noire, et au Québec, c'est autour de 6%. Mais quand on regarde historiquement les chiffres en médecine, on était à peu près à 3 étudiants pour des cohortes de 300 ou 350, donc moins de 1%, explique Prévost John Chu, professeur agrégé de clinique à la faculté de médecine dans le département de pédiatrie de l'Université de Montréal. L'un des changements apportés par le programme qui promeut la diversité est que les étudiants peuvent faire une autodéclaration qui va leur permettre de faire valoir des dimensions qui ne sont pas uniquement les performances scolaires. Ça permet, cette autodéclaration, de valoriser les candidatures des étudiants noirs et puis démontrer la valeur ajoutée de leur présence au sein de la communauté étudiante, indique le docteur John Chu. La sélection des programmes contingentés fait en sorte que, quand les candidats sont nombreux, il y a très peu de place. Souvent, on va avoir par exemple 3000 candidats et il n'y a que 300 places. Le fait d'avoir cette autodéclaration permet aux étudiants noirs qui seraient passés dans une maille des filets de pouvoir au moins être convoqués à l'entretien, qui est une étape supplémentaire au-delà des notes. Dans le lancement du programme, le nombre d'étudiants noirs en médecine a augmenté, a pu constater le professeur John Chu. Les chiffres ne sont pas encore finalisés, dit-il, mais on a quelque chose qui a augmenté de façon significative. Je dirais au moins le double, voire le triple d'étudiants par rapport à ce qu'on avait. Il a par ailleurs bon espoir que la relève réussira à se départir des biais qui existent et persistent grâce à la façon dont les cours sont donnés, avec l'accent qui est mis sur l'inclusion. Parce que le racisme systémique, c'est vraiment des choses qu'on veut éviter et que les nouvelles générations de médecins puissent perpétuer, souligne le docteur John Chu. On a beaucoup parlé du racisme systémique, où parfois on peut être moins tolérant envers des candidats noirs par rapport à ces biais, alors que les résidents ou les médecins noirs ont les mêmes compétences, les mêmes aptitudes, poursuit-il. Il y a vraiment un changement de culture qui fait en sorte que l'hôpital, ça doit être le reflet de la société. Et d'avoir cette diversité dans l'institution permet aussi qu'il y ait un dialogue assez transparent. Inspirer la jeunesse. Augmenter les effectifs médicaux issus des communautés noires a aussi des répercussions positives pour des patients. Le docteur John Chu estime que la stigmatisation est moindre. Ça change beaucoup de choses. Déjà, le patient se sent en confiance, dit-il. De plus, il existe des maladies qui peuvent parfois être mal comprises, notamment en ce qui concerne les maladies spécifiques à la population noire. Le docteur John Chu a parlé entre autres d'anémie falciforme et du don de cellules souches, dont les besoins sont importants par rapport au nombre de donneurs noirs. D'autre part, le Dr John Chou est aussi le fondateur de la Fondation Inspire, qu'il a mise sur pied il y a 5 ans. Chaque année, un camp d'entraînement, Bootcamp, est organisé, réunissant plus de 200 jeunes majoritairement issus de la diversité. Durant le camp, on informe les jeunes sur la panoplie de métiers qui existent dans le domaine de la santé. C'est un objectif fondamental, puisque beaucoup de familles immigrantes n'ont pas une grande connaissance du système, des fonctionnements, des différents parcours, des métiers. Il y a des métiers que beaucoup ne connaissent pas, par exemple, technologue de laboratoire ou inhalothérapeute, soutient le Dr John Chou. Plusieurs professionnels de la santé vont participer aux activités du camp pour inspirer les jeunes, qui vont aussi recevoir des outils pour réussir, notamment des stratégies pour les études, les révisions, pour passer une entrevue. C'était « Des progrès pour attirer des étudiants noirs dans les programmes de médecine », un texte de Catherine Dezautel de la presse canadienne, paru le 20 mai 2025 dans Le Devoir.
Comment s'indigner sans agressivité ni insulte? Un texte de Stéphanie Marin, paru le 26 mai 2025 dans Le Devoir. Sur les réseaux sociaux, l'indignation qui pleut de façon torrentielle est souvent accompagnée d'agressivité et parfois même de menaces. Y a-t-il moyen d'exprimer nos haut-le-cœurs, en ligne ou ailleurs, sur des enjeux qui nous troublent ou nous choquent, que ce soit la guerre ou la destruction de la planète, sans tomber dans l'insulte ou la haine? Voici des pistes de solutions, ou, à tout le moins, des exemples de ce qui a été tenté. Sur Instagram et X, la tâche peut être ardue. Ils sont structurés de façon à susciter des réactions et, en quelque sorte, à diviser les gens, en plus de les inciter à aimer ou à ne pas aimer un contenu, explique Emmanuelle Parent, chercheuse au département de communication de l'Université de Montréal. Sur ces plateformes, tout nous appelle à réagir avec des réponses émotives, poursuit celle qui est aussi directrice générale du Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, le CIEL, qui a pour mission d'ouvrir une conversation critique sur les enjeux du numérique. Les contenus recommandés et mis en valeur par les algorithmes sont souvent ceux qui sont sensationnalistes et agressifs, car ils suscitent des réactions. Le moteur des réseaux sociaux, explique la chercheuse. Alors, quand on veut s'indigner avec visibilité, mais sans agressivité sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme si on avait le vent dans la face, car on entre en contradiction avec leur façon de fonctionner. Se joindre à un mouvement social. La professeure dégage néanmoins des exemples de succès, comme l'émergence de mouvements de dénonciation dans la société qui ont permis aux citoyens de s'indigner en ligne en regroupant leurs voix, ce qui en a multiplié l'effet. Elle donne en exemple la grève étudiante, lancée par la militante écologiste Greta Thunberg. Le monde numérique a permis aux jeunes de s'indigner pour protéger la planète, dit-elle. Elle pense aussi aux mouvements de dénonciation hashtag MeToo et hashtag Black Lives Matter qui ont braqué les projecteurs sur de graves problèmes. Il était possible de s'indigner en ligne sans agressivité ni insulte, en utilisant plutôt la force du nombre et la diffusion de témoignages forts, notamment ceux de femmes qui ont été agressées sexuellement, note Madame Parent. L'humour et la satire. En ligne, les mèmes sont légion. Ils utilisent l'humour pour dénoncer. Ceux-ci se feraient parfois une place dans le monde physique, semblant ne pas craindre les possibles poursuites en diffamation. En Europe, par exemple, des groupes se sont organisés pour dénoncer les agissements d'Elon Musk, le milliardaire à la tête de Tesla, qu'il qualifie de fasciste. Les habitants du Royaume-Uni ont ainsi vu apparaître une série de fausses affiches publicitaires satiriques, comme celle où l'on pouvait lire passe de 0 à 1939 en 3 secondes. Tesla, le Svastiker. Si de telles affiches peuvent atteindre leur objectif d'attirer l'attention, Madame Parent apporte toutefois ce bémol. Dans une telle situation, l'humour ne fonctionne que quand on partage le propos véhiculé. Informer plutôt qu'enflammer. Sur des sujets très émotifs, comme le conflit actuel entre Israël et Gaza, Madame Parent offre cette piste de solution pour s'indigner dans le respect. Écrire un message qui soulève le problème, du type « Vous avez vu ce qui se passe là-bas ?» en ajoutant un lien vers une source d'information fiable et vérifiée. Autrement dit, utiliser l'indignation comme déclencheur pour inciter les gens à s'informer en lisant sur le sujet. Cette façon de faire tend aussi à contrer les fausses nouvelles qui sont légion en ligne, dit-elle. Il ne faut pas oublier que, sur les réseaux sociaux, les internautes sont la plupart du temps dans une chambre d'écho, rappelle Madame Parent. Aller au-delà des publications qui arrivent dans notre fil sans qu'on les sollicite pourrait permettre d'ouvrir une réelle discussion. Activités festives ou artistiques. Au-delà des traditionnels concerts bénéfices et marches pacifiques dans les rues qui attirent l'attention sur diverses causes, des citoyens choisissent de se rassembler afin d'apprendre, de partager et parfois aussi de rendre visible la cause de leur indignation par leur seule présence. C'est le cas des sit-ins mensuels, manifestations non violentes dans laquelle les participants occupent l'espace public en restant assis, du groupe Mère au front devant le bureau de François Legault, ou encore de leur rassemblement festif le jour de la fête des mères, pour souligner l'importance de la lutte contre les changements climatiques. Un autre exemple, une soirée de « Poésie pour la Palestine » qui a été organisée au café Tintico à Québec. On a le droit de s'indigner, on a le droit d'être en colère, souligne Madame Parent. D'ailleurs, dit-elle, l'indignation est à la base d'un mouvement qui peut être positif et être le moteur d'un changement social. C'était « Comment s'indigner sans agressivité ni insulte », un texte de Stéphanie Marin, paru le 26 mai 2025 dans Le Devoir.
Les États-Unis en guerre contre les colorants artificiels, un texte de Mathieu Perrault, paru le 1er juin 2025 dans La Presse. L'administration Trump veut convaincre l'industrie alimentaire de remplacer tous les colorants synthétiques par des produits naturels d'ici 2 ans. Mais ils ne seront pas interdits, ce que déplorent les groupes opposés à ces additifs chimiques. Quels sont les effets de ces colorants sur la santé? 3 études canadiennes ont été réalisées récemment sur les effets néfastes de ces colorants. Nous avons donné à des souris de laboratoire du rouge 40 et ce colorant semble causer une inflammation de l'intestin comparable au syndrome du côlon irritable humain, relate Walyul Khan de l'Université McMaster, située à Hamilton, en Ontario. Le biochimiste ontarien, qui a publié ses résultats en 2022 dans Nature Communications, veut maintenant savoir s'il est possible de mesurer un effet sur les humains de la consommation du rouge 40. Dans un autre établissement ontarien, l'Université de Guelph, des tests de colorants synthétiques ont été menés sur un robot intestin, une simulation en éprouvette de l'intestin humain. Ils ont aussi trouvé un lien entre les colorants artificiels et l'inflammation de l'intestin. Nous avons observé comment sont métabolisés ces colorants par les bactéries intestinales, explique le biochimiste David Josephy, qui est co-auteur des 2 autres études canadiennes récentes publié en 2023 dans les revues Anaérobé et Food and Chemical Toxicology. Les colorants synthétiques sont réputés très stables, mais dans l'intestin, les bactéries peuvent les dégrader. Les produits de cette métabolisation intestinale pourraient affecter la santé de deux manières. Ils pourraient créer de l'inflammation, et donc le syndrome du côlon irritable, et ils pourraient affecter l'axe ventre-cerveau, indique le biochimiste de Guelph. Selon cette hypothèse, l'inflammation gastro-intestinale pourrait avoir des impacts sur le cerveau par l'entremise du nerf vague, notamment responsable du système nerveux autonome, qui régule les fonctions non volontaires comme la respiration, la digestion ou les battements cardiaques. C'est intéressant parce que certaines études ont montré que les colorants synthétiques pourraient avoir des effets comportementaux comme le déficit d'attention chez les enfants, dit M. Josephy. Cet effet comportemental impliquerait le cerveau, donc l'axe ventre-cerveau. Cancer et couleurs synthétiques. En janvier, les autorités américaines, soit la Food and Drug Administration ou FDA, ont annoncé l'interdiction du rouge 3 à compter de 2028 sur la base d'une étude de 1987 démontrant un risque de cancer chez le rat. Or, le mécanisme menant au cancer chez le rat, dans ce cas, n'existe pas chez l'humain, a affirmé l'auteur de cette étude, Joseph Borzelleka, de l'Université Virginia Commonwealth, dans une entrevue avec le site KFF Health News. C'est vrai que le mécanisme, dans ce cas, n'existe pas chez l'humain. Mais ce potentiel de cancer pourrait signifier qu'il y a un risque pour l'humain avec un autre mécanisme, explique Tracy Crane, oncologiste spécialiste de la nutrition de l'Université de Miami. Comme les colorants synthétiques n'offrent aucun bénéfice nutritionnel, je ne vois pas pourquoi on tolérerait un risque de cancer, même hypothétique. La Dr. Crane se demande pourquoi d'autres colorants synthétiques qui donnent le cancer à des rats de laboratoire n'ont pas été bannis en janvier par la FDA. Ce serait parce que les preuves de cancer animal liées aux autres colorants ont été jugées moins graves par la FDA, selon Thomas Galligan, auteur d'un rapport critique sur les colorants au Centre pour la science d'intérêt public, CSPI, une ONG américaine. Une aversion qui remonte à loin. Les craintes sur le cancer et les colorants proviennent d'un colorant utilisé au début du XXe siècle appelé jaune beurre, rappelle David Josephy. Il était soluble dans le gras, donc était utilisé pour la margarine et certaines huiles. Mais justement, cette solubilité dans le gras du jaune beurre le rendait toxique pour le foie. Ce risque de cancer du foie a mené à son interdiction dès les années 1940. Les colorants actuels sont toutefois solubles dans l'eau, pas dans le gras. Alors ils ne posent pas du tout les mêmes risques de cancer. Ce n'est quand même pas une raison pour les utiliser, parce qu'ils n'ont aucune valeur nutritive. Mais M. Josephy tempère les inquiétudes au sujet des couleurs synthétiques. Personnellement, je serais beaucoup plus inquiet de la consommation de produits importés de l'étranger qui ne sont pas inspectés avec la même rigueur par les autorités alimentaires canadiennes que des produits qui contiennent des colorants synthétiques, dit-il. À la fin d'avril 2025, le secrétaire à la santé des États-Unis, Robert F. Kennedy, a annoncé qu'il demanderait à l'industrie alimentaire d'éliminer volontairement ces 9 colorants d'ici 2 ans. Le gouvernement ne va pas assez loin en laissant les entreprises décider elles-mêmes si elles veulent cesser d'utiliser des colorants synthétiques, selon M. Galligan. Les colorants synthétiques sont peu utilisés pour les nouveaux produits, note Kathleen Melançon, une biologiste de l'Université du Rhode Island, qui étudie ces molécules. Le problème, c'est qu'il y a des produits très vendus qui sont associés à ces couleurs. Les consommateurs réagissent fortement quand les couleurs changent. En 2017, les céréales Trix ont adopté des colorants naturels avant de revenir aux couleurs synthétiques, rapporte Monica Giusti, une biochimiste de l'Université d'État de l'Ohio, qui étudie les vertus des colorants et agents de conservation naturelle. À l'époque, plusieurs entreprises annonçaient l'abandon des colorants synthétiques, dit-elle. Trix a voulu être la première et a bâclé la formulation. L'orange était brunâtre, par exemple. Vous écoutez « Les États-Unis en guerre contre les colorants artificiels », un texte de Mathieu Perrault, paru le 1er juin 2025 dans la presse. Et en dehors des États-Unis, les colorants synthétiques sont légèrement moins utilisés au Canada qu'aux États-Unis, selon Walyul Khan et David Josephy. RFK a souvent cité favorablement le cas des céréales Fruit Loops canadiennes, dont l'apparence est plus terne parce que des colorants naturels sont utilisés. Au Canada, seul le rouge citrin 2 et l'orange B sont interdits. Le vert 3, banni en Europe, est toujours permis. Le rouge 3, bientôt prohibé aux États-Unis, est autorisé chez nous, mais sa concentration maximale dans chaque aliment est limitée. En Europe, le rouge 3 n'est autorisé que pour colorer les cerises confites. Les colorants synthétiques sont également moins fréquents en Europe qu'aux États-Unis parce que les aliments qui en contiennent doivent afficher des mises en garde sur leurs effets potentiels sur la santé. Selon Thomas Galligan, c'est l'exemple à suivre pour les États-Unis. Ces mises en garde ont été introduites il y a une cinquantaine d'années après la publication d'une étude montrant une augmentation du risque d'hyperactivité chez les enfants. Les ventes de produits contenant des colorants synthétiques ont alors diminué, observe Monica Giusti. Maintenant, si vous allez en France ou en Italie, vous allez trouver des aliments sans mise en garde, avec des colorants naturels au milieu des étagères, mais en bas et en haut, des aliments avec des colorants synthétiques, dit Madame Giusti. Il semble que les consommateurs qui aiment les couleurs vives se sont adaptés. Les colorants naturels bénéfices et risques. Des molécules végétales peuvent être utilisées pour colorer les aliments. Il y a notamment la chlorophylle, présente dans les légumes verts, la caroténoïde et les anthocyanines, présentes dans les bleuets et les raisins, notamment. Il y a 700 anthocyanines différentes dans la nature, explique Madame Giusti. Elles ont souvent des propriétés antioxydantes qui protègent les cellules du corps. Les anthocyanines, tout comme la chlorophylle, pourraient aussi aider à restaurer ou à entretenir une bonne flore gastro-intestinale, selon la biochimiste américaine. Les propriétés antioxydantes des anthocyanines sont également bénéfiques pour la santé. Quant aux caroténoïdes, ils contribuent à la santé des yeux, Nos parents avaient raison de nous dire de manger des carottes pour améliorer notre vue. Thorsten Bonn, biologiste de l'Institut pour la santé du Luxembourg, a publié plusieurs études pour appuyer cette croyance populaire. Il pourrait aussi avoir un effet anti-inflammatoire sur le microbiote, mais il faut d'autres études, dit M. Bonn. Par contre, les caroténoïdes sont néfastes pour les fumeurs. On a essayé de voir si leurs propriétés antioxydantes peuvent diminuer le risque de cancer du poumon chez les fumeurs, mais c'est le contraire qui est arrivé, révèle M. Bonn. Le risque de cancer du poumon a augmenté. On ne sait pas pourquoi, il y a des études en cours pour tirer ça au clair. Cette augmentation du risque de cancer ne touche que les fumeurs. Manger des carottes crues n'est pas un problème pour les fumeurs parce que le caroténoïde est mélangé aux fibres. Mais si les carottes sont bien cuites, et plus encore si elles sont en purée, les fumeurs doivent éviter d'en manger trop, selon M. Bonn. Cela limite donc l'attrait des caroténoïdes comme colorant naturel pour les fumeurs, selon lui. L'ABC des colorants. 9 colorants alimentaires synthétiques sont autorisés en ce moment aux États-Unis, mais plusieurs ne sont presque plus utilisés dans le pays. Le rouge 40 et les jaunes 5 et 6 sont les plus fréquents et de loin. Le rouge 3 sera interdit à compter de 2028. Les deux bleus 1 et 2 sont rares, tout comme le vert 3 qui est interdit en Europe. Enfin, le rouge citrin 2 et l'orange B ne sont plus utilisés par l'industrie. En savoir plus, source Center for Science in the Public Interest. 27. Nombre d'études cliniques humaines montrant que les colorants synthétiques peuvent avoir des effets sur le comportement des enfants. 45 000. Nombre d'aliments aux États-Unis comprenant au moins un colorant synthétique. 18 000. Nombre d'aliments aux États-Unis comprenant au moins 2 colorants synthétiques. 450 000. Nombre d'aliments transformés vendus aux États-Unis. C'était « Les États-Unis en guerre contre les colorants artificiels », un texte de Mathieu Perrault, paru le 1er juin 2025 dans la presse.